Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes à l'Opéra Comédie où se répète Orfeo. Alors, Orfeo de Sartorio, pas celui de Monteverdi. Et nous sommes en compagnie de Benjamin Lazare, metteur en scène. Bonjour, Benjamin Lazare.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc le metteur en scène de cet Orfeo. Vous mettez en scène beaucoup de spectacles baroques depuis quelques années, pas seulement. Mais quand même pas mal. Vous ne mettez pas en scène que de l'opéra, vous mettez en scène aussi du théâtre. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait de spécifique comme ça dans la mise en scène entre théâtre et opéra? Est-ce que ça change pour vous vraiment la nature du travail ou pas vraiment?
Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. Mais c'est sûr que à l'opéra, c'est une autre gestion du temps. On travaille dans des plannings assez contraints, assez ritualisés, on peut dire. On sait que à ce qu'on appelle la générale piano, qui est là, est une générale clavecin continuo, la mise en scène doit être prête parce qu'ensuite l'orchestre arrive et le metteur en scène n'a plus la main, c'est le chef d'orchestre qui dirige la répétition. Donc voilà, c'est une gestion du temps différente et puis aussi une façon de travailler différente. Disons que la plupart du temps, les chanteurs aiment bien avoir une sorte de partition gestuelle de déplacement et notamment qu'on leur indique des choses à partir de quoi ils vont pouvoir inventer, s'approprier les choses. Parce qu'ils ont l'habitude des partitions. Un comédien au théâtre, il va vouloir peut-être plus inventer de toute pièce son parcours. Voilà. Il y a des petites différences comme ça. Mais dans les deux cas, c'est du spectacle. Donc il y a des lois communes.
Voilà. Alors, vous parlez de gestuelle. Il me semblait, là, on vient d'assister à un petit extra, petit moment de répétition. Et puis, j'ai vu quelques images de répétition aussi. Et ce qui m'a frappé, alors qu'on a souvent la représentation du théâtre baroque comme quelque chose d'un peu figé, un peu statique, qu'au contraire, il y avait tout un travail sur le mouvement et sur la gestuelle. Et même, je dirais, un style de gestuelle, j'ai l'impression, il y a quelque chose de presque chorégraphique dans ce que vous demandez aux chanteurs. Est-ce que c'est vraiment spécifique à ce spectacle ou est-ce que c'est votre marque de fabrique plus générale?
Je suis très très attentif à la façon dont je peux aider les chanteurs à bouger sur scène, à mettre en valeur le plus possible leur art. Il se trouve que sur la période baroque, j'ai beaucoup travaillé sur la gestuelle baroque, c'est-à-dire l'art ancien rhétorique de l'acteur qui lui servait à mettre en valeur par les gestes son art du chant, qui est une façon très différente du jeu, disons, plus naturaliste, plus cinématographique, où le corps va être juste un corps qui va bouger selon ses émotions. Voilà. Et en fait, là, sur ce spectacle, justement, on est dans la rencontre entre plusieurs genres de jeux. À la fois un jeu naturaliste et un peu cinématographique, disons, et puis en même temps, des aspects plus chorégraphiques. Et c'est toute la couleur du spectacle, en fait, qui a des aspects très baroques et des aspects très contemporains.
Donc, il mélange un jeu codifié, on pourrait dire, et un jeu plus naturel, entre guillemets.
C'est ça, avec des passages libres de l'un à l'autre, des passages libres, mais très travaillés, justement, avec les chanteurs, où on a cherché ensemble ce troisième langage qui naît de la rencontre des deux.
Alors, il y a peu de temps, vous étiez sur un genre d'opéra tout à fait différent, avec le vaisseau fantôme de Wagner. Et je me disais, autant le vaisseau fantôme, on a dans le récit des éléments tangibles, réalistes, si je puis dire, un bateau ou des choses comme ça. Là, avec Orfeo, on est plus dans un imaginaire, il me semble. Est-ce que ça ça touche votre mise en scène? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte?
Oui, c'est on a ici un univers mythologique, mais on sent aussi inspiré par l'époque dans laquelle il est né, la Venise du XVIIe siècle. Donc on s'est inspiré aussi de ces éléments-là, notamment dans les costumes d'Alain Blanchot, qui ont chatoiement certain, une richesse des étoffes, mais qui se dépouille vers une plus de modernité. Et pardon, j'ai un peu perdu le fil de votre question.
Ah ben c'était l'idée de l'imaginaire. Il y a un monde imaginaire, il me semble, dans Orfeo, qui est peut-être plus libre, plus ouvert que dans celui d'un vaisseau fantôme, par exemple, qui a quand même des... Même s'il y a de la légende, il y a aussi du réalisme.
Oui, il y a de la légende, il y a un mélange de merveilleux et de réalisme dans Wagner, c'est vrai. Mais ici aussi, il y a du merveilleux, mais il y a aussi une réalité des sentiments, une peinture du sentiment amoureux, une peinture... Assez sombre, hein, l'amour fait un peu des dégâts dans cette histoire, parce que Orphée est très jaloux, Aristéo, le frère d'Orphée, est amoureux de Eurydice, Erinda, la vieille nourrice, tombe très amoureuse d'un petit gigolo qui la rend très malheureuse. Donc c'est des sentiments très forts, qui sont quand même faits pour créer une histoire divertissante, avec des moments qui font rêver, effectivement, le Orphée qui attire tous les animaux autour de lui quand il chante, l'ombre d'Eurydice qui vient des enfers demander du secours à Orphée. Donc des éléments merveilleux, mais qui se font quand même sur un fond d'observation des sentiments humains très juste et pas du tout stéréotypé.
Alors, c'est une mise en scène. Vous évoquiez Alain Blanchot. Hein, je crois que votre première collaboration remonte à une vingtaine d'années, à peu
c'est
près.
C'est ça,
hein.
Comme avec Adeline Caron, voilà. qui fait la scénographie. Puis Elisabeth Callot, la collaboratrice artistique du projet, avec qui je travaille depuis plus de 10 ans maintenant.
Alors, comment ce travail se passe avec le costumier? Les idées sont partagées? Est-ce qu'il y a un fil directeur donné plus par l'un, plus par l'autre? Est-ce que les costumes, tout d'un coup... transforme la mise en scène? Est-ce que la mise en scène transforme les costumes?
Ah oui, ben c'est tout un travail de préparation qui commence bien plus d'un an avant. Hein, donc le projet costume est prêt bien longtemps avant, le projet scénographie aussi. Ensuite, il y a des choses qui évoluent donc, dans nos discussions entre nous, à partir de premières images, de premières intuitions. Ici, par exemple, avec Adeline Caron, on parlait d'un théâtre, des théâtres anatomiques, parce qu'il y a le personnage d'Esculape qui est médecin. Donc on s'est dit, ces théâtres anatomiques où se passaient les dissections, c'est un petit théâtre dans le théâtre qui peut aussi évoquer en même temps une sorte de cabaret comme ça, un peu chatoyant et cruel. Donc on est parti de cette image-là. Mais ensuite, elle a évolué avec la réalité du plateau, de l'histoire. Et puis pareil pour Alain Blanchot, les costumes sont toujours très très précis chez lui dès le dessin. Et on sait qu'un dessin va se retrouver exactement en costume. Mais il y a quand même des choses qui changent. Là encore, le costume de Pluton va évoluer parce qu'on se rend compte que justement vers ce chemin, vers la modernité qu'on cherche cette évolution du début à la fin du spectacle, eh bien, le costume de Pluton n'était pas dans la bonne note, donc il m'a fait une autre proposition. Donc voilà. Et puis parfois, comme vous l'avez dit, un costume va inspirer un mouvement. Erinda a des très beaux gants qu'elle ôte un peu comme Gilda. Donc voilà, il y a des inventions qui naissent aussi du costume. Que le chanteur trouve avec le costume.
Voilà. Alors, ce n'est pas la première fois que vous collaborez aussi avec Philippe Jarouski. Mm-hmm. Peut-être la première fois comme chef, Philippe Jarouski. Vous l'avez côtoyé comme chanteur. Comment se passe la collaboration avec, en général pour vous, avec le chef et en tant que metteur en scène? Vous disiez tout à l'heure qu'à un moment donné, c'est le chef qui dirige tout, y compris la mise en scène.
Oui, c'est lui qui sera le maître à bord des représentations, ça c'est sûr. C'est Philippe Jarouski qui m'a appelé, qui a fait appel à moi et à mon équipe, en accord avec Valérie Chevalier, bien sûr, la directrice de l'opéra, mais parce qu'il avait un bon souvenir de la mise en scène qu'on avait faite du Sant'Alessio, où il était le rôle-titre en 2007. Qu'on avait joué notamment au Théâtre des Champs-Élysées, qu'on avait créé au Théâtre de Caen avec William Christie à la direction musicale. Et j'aime beaucoup que les projets partent d'une envie du chef, justement. Vous évoquez le vaisseau fantôme. Ben, c'est François-Xavier Roth qui est venu me chercher pour ce projet. Avec Vincent Dumestre aussi, les projets naissent ensemble. Donc, ça, à partir du moment où il y a cette étincelle commune, là, ici, Philippe, qui rêve depuis des années de monter cet opéra et qui me le propose, ça assure une certaine entente dans les répétitions, parce que ça a commencé bien avant, en fait. On a échangé sur la distribution, sur les coupes, sur les personnages. Voilà, donc ça, c'est un travail au long cours qui fait que c'est très fluide là, dans les répétitions. Il y a même des choses qui naissent, des hasards du plateau que Philippe va saisir musicalement. Par exemple, Gaïa, qui chante le personnage d'Orillo, s'est mis à faire un petit rythme sur le décor. J'ai trouvé ça super. Et tout de suite, on l'a intégré dans une scène où elle joue ce petit rythme qui lance la musique et ensuite qui est repris par la percussionniste Michel Claude. Donc voilà, il y a ce genre de hasard qu'on saisit au vol en répétition et qui assure cette complicité entre la fosse, le chanteur, la scénographie, la mise en scène.
Je me dis, par rapport au métier, c'est peut-être parce que vous évoquez un travail de préparation qui remonte à un an, c'est peut-être justement parce qu'il y a eu tout ce travail qu'il devient possible de saisir des choses au dernier moment.
C'est très juste ce que vous dites, oui, c'est exactement ça. C'est le fait d'être très préparé qui permet d'improviser, parce que sinon on serait un peu comme un lapin devant les phares, devant le peu de temps qu'on a, alors que là on a le temps d'inventer. Et puis aussi on a des bonnes conditions qui nous sont données ici, c'est assez rare de pouvoir, on répète depuis le 27 avril et donc on a le temps de faire ce travail là et c'est très important parce que l'opéra doit être un lieu vraiment de création et de recherche. C'est pas un lieu où vous posiez une question très intéressante sur les rapports entre théâtre et opéra au début. Ben justement, j'ai à cœur que l'opéra soit pas que de la recherche appliquée de choses qu'on trouverait au théâtre, mais que ça soit un lieu où on puisse vraiment inventer des formes et faire des vraies rencontres.
Voilà, eh bien, merci beaucoup Benjamin Lazare. On vous laisse retourner à la répétition. Merci de nous avoir consacré ce petit moment.
Avec plaisir.
Et bonne répétition, bon spectacle.
Merci beaucoup.